Bonjour, on se retrouve dans un nouveau podcast et aujourd'hui on va parler d'un sujet dont vous me parlez tous les jours sans exception, la fameuse dépendance affective. Je suis vraiment super contente de vous retrouver du coup maintenant tous les lundis parce que vraiment ça me permet moi d'aller approfondir sur des sujets, chose que je peux pas faire dans un format dynamique en 1 minute 30 ou en 2 minutes quoi qu'il arrive, même si on peut faire des formats plus longs par exemple sur Instagram et sur TikTok. Mais c'est vrai que le but étant de captiver rapidement une audience pour faire passer son sujet, c'est pas toujours simple d'aller approfondir, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de la dépendance affective, et je l'ai un peu nommée puisque c'est « et si j'étais libre de ma dépendance affective hein, ?» Parce que là, c'est quand même super important, personne ne veut être dépendant de rien. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce dont on va parler. Je vous rappelle que ce format, c'est un format dont je me suis inspirée de d'autres podcasteurs qui est sans coupure, c'est-à-dire que je parle vraiment au fil de ma pensée, au fil de mes idées. Exception, je coupe si, je sais pas, il y a une alarme, ou j'en sais rien. Et petite particularité, ça fait un petit moment que j'ai la voix cassée, donc je pense qu'il va falloir que j'aille voir un orthophoniste, parce que je pense avoir perdu un petit peu de mes cordes vocales. J'ai été malade, j'ai beaucoup toussé, etc. Puis j'ai un métier où je parle beaucoup. Et au mois de janvier, j'ai fait beaucoup d'accompagnement individuel sur la sphère professionnelle. Donc ça m'a fallu de parler beaucoup et en même temps je vais faire des podcasts, donc du coup voilà, je vais quand même pas m'en empêcher, tant pis, comme on dit, la voix cassée c'est un peu sexy, mais par contre c'est peut-être une indication qu'il faille prendre soin de moi, qu'il faille prendre soin de moi, de ma voix, donc sachant que c'est mon métier principal, je vais me pencher sur ce sujet. Donc aujourd'hui, j'avais vachement envie de vous parler quand même de la dépendance affective, vraiment, parce que c'est un sujet qui revient extrêmement souvent. Comment on fait pour se libérer de la dépendance affective, comment on fait, etc., etc. Alors moi, j'ai plein de conversations avec plein de gens qui sont toujours dedans, qui ont énormément évolué, qui ne le sont pas du tout, hommes et femmes. Et c'est assez intéressant parce que je rencontre des personnes qui me disent, par exemple, que pour elles, on ne guérit pas la dépendance affective, on apprend à vivre avec. D'autres personnes qui vous disent que c'est mieux d'être seule jusqu'à guérir, soigner cette dépendance. D'autres qui vous disent qu'en effet, c'est tout à fait ok d'être en couple et d'être dépendant affectif et ça pose aucun problème, surtout si on l'est tous les deux, etc. Bon, il y a plein de théories différentes. Moi, je vais vous parler dans une approche plus terre à terre, plus logique. J'aime bien remettre un petit peu de l'ordre dans le contexte, tout en gardant toujours de la nuance. Dans mes podcasts, le but, comme on parle justement, et si j'étais libre de ma dépendance affective, le but, c'est quand même de voir qu'est-ce que ça fait quand on l'est, en fait. Parce qu'en fait, des fois, on est tellement habitué à vivre à travers des traumatismes, moi la première, qu'on s'identifie à ça et on reproduit toujours les mêmes types de situations et on comprend pas pourquoi on s'en sort pas. Et du coup, on considère presque que ça fait partie de nous et que bah voilà, c'est un trauma. Si j'ai une dépendance quelconque, je vais pas pouvoir m'en débarrasser parce que j'y arrive pas. Bon, alors ne pas y arriver, c'est une chose. Demander de l'aide, c'en est une autre, parce qu'on peut évidemment demander de l'aide quand on a besoin d'aller mieux sur plein de domaines de notre vie. Mais évidemment, comme dans tous mes podcasts, je vais revenir beaucoup à moi, même si c'est aussi lié à ce que j'ai pu voir autour de moi, hein, mais je vais revenir beaucoup à moi. Pourquoi ? Parce que j'ai été dépendante affective, mais dépendante affective sévère. C'est-à-dire que ça résume quoi dans ma vie ? Depuis que je suis enfant, j'étais vraiment amoureuse de l'amour. Donc, ma vie tournait autour de n'importe quel mec que j'allais rencontrer. Beaucoup moins de nanas. J'ai pas souvenir d'avoir été amoureuse d'une fille. Je pense que je ne sais pas si je pourrais être en couple véritablement avec les femmes, même si je préfère largement la mentalité féminine que masculine. Alors qu'avant, c'était le contraire. Aujourd'hui, quand même, je me suis beaucoup réconciliée avec la figure féminine. Je me suis détachée de beaucoup de choses sur lesquelles j'étais construite, qui étaient très néfastes concernant la femme. Mais malgré tout, bon, bah voilà, hein, je reviens toujours vers des hommes et les hommes reviennent beaucoup vers moi. Il n'y a pas cette homosexualité qui est présente dans ma vie. Je suis entourée de personnes homosexuelles autour de moi, genre de fous. Mais moi, il n'y a rien qui se présente à moi, quoi. La seule fois où j'étais intéressée par une femme, elle s'est mise avec quelqu'un avec qui je travaille. Enfin, je dis intéressée de loin, vous voyez ce que je veux dire? Je n'étais pas intéressée fortement, juste un intérêt comme ça. Je n'ai plus cet intérêt aujourd'hui, on est tous amis, on s'entend tous bien, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ça m'arrive très rarement et que ce n'est pas quelque chose qui m'est destiné, si je puis dire, dans cette vie en tout cas. Donc là, j'en reviens du coup aux hommes. Depuis petite, j'étais vraiment obsédée par l'idée d'être amoureuse. De vivre une histoire d'amour de ouf, qu'il se passe des trucs de ouf. Je sais pas comment vous expliquer, c'était genre omniprésent. Omniprésent. Je faisais tout pour plaire, tout. Et dès que j'ai pu, en effet, plaire, être un peu plus coquette, avoir des hommes, etc., bah moi, j'ai eu beaucoup de relations sexuelles qui ne menaient à rien, alors qu'en fait, au final, j'ai toujours voulu l'amour. Mais j'acceptais bah, un rapport sexuel parce que c'était une marque d'affection. Ça, c'est un fait. J'ai été très jeune en couple, donc bon, mon premier amour, j'avais 14 ans, première fois, tout ça, tout ça. Bon, c'était une histoire assez brève en définitive, compliquée. Et j'ai été en couple après à l'âge de 17 ans, donc je suis restée avec cette personne jusqu'à mes 20 ans, et qui avait 9 ans de plus que moi d'ailleurs. On ne fait pas de commentaires sur cette situation, quand j'y repense, c'est horrible. Parce que quand même, oh, j'avais même pas, j'étais loin de mes 18 ans, qu'il en avait déjà 26, 27. Bref, soit cette personne ne fait plus partie de ma vie aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que dès qu'une personne me témoignait de l'intérêt, eh ben, j'étais totalement, genre, je sais pas comment vous dire. C'est pas parce qu'une personne s'intéressait à moi et moi non que j'allais y aller quand même. Mais il y a eu quand même beaucoup de relations aujourd'hui chez dans lesquelles je sais que je ne me remettrai pas les pieds parce qu'avant il y avait ce truc de non mais attends il s'intéresse à toi et donc ça créait quelque chose en moi alors que peut-être de base cette personne ne me plaisait pas mais ça créait quelque chose en moi comme je suis reconnue, je suis aimée et ça c'est un des traits de la dépendance affective. La dépendance affective elle est causée comment? Avant de vous raconter ma life là, elle va être créée donc sur des traumatismes. On va prendre les choses de façon très terre à terre. Une dépendance, elle est là pour remplir quelque chose. Elle est là pour être en réponse réactionnelle à quelque chose. Donc, quand vous avez une dépendance à la nourriture, vous avez une dépendance à la drogue, la cigarette. Que c'est une drogue, ceci étant dit, on va parler français. L'alcool, c'est une drogue aussi. Vous êtes dépendant au sexe, vous êtes dépendant au sport. Dépendant au sport, ça va être des gens qui vont faire du sport de façon extrême à outrance, et ce n'est pas sain non plus. Vous hein, voyez, tout ce qui va être dépendance et que tout ce qui va être lié à ça, et que si on n'a pas ce truc-là, et ben on pète un câble. Ben ça résulte en fait d'une réponse traumatique et ou enfin réactionnelle à un trauma ou à un manque ou à une blessure. Quand je dis trauma, on va pas s'attendre à ce que vous ayez vécu un choc. Un traumatisme, c'est en effet une réponse à quelque chose qui a pu choquer, mais un choc, c'est pas forcément un accident, c'est pas forcément une agression. Un choc, ça peut être juste un jour quelqu'un est parti et en fait au fond de vous, ça vous a fait un choc dans votre cœur, tu vois. Vous avez manqué de quelque chose, ça a créé une réaction en fait, ça a créé une réaction dans votre cerveau qui a créé un traumatisme. Et donc du coup de là, bah, il va y avoir un relais. Alors là, je vais pas vous parler de neurosciences parce que je gère pas assez bien le sujet, mais il va y avoir un relais qui va se faire et ça va créer un trauma. Et en fait, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, que la dépendance affective, c'est exactement la même chose que les autres dépendances, sauf que comme elle n'est pas palpable, c'est-à-dire la cigarette, l'alcool, tout ça, machin, la dépendance au jeu aussi, par exemple, la dépendance, je sais pas, tu sais, par exemple, la maladie de Diogène où tu cumules des objets ou des ordures, la dépendance à, je sais pas, enfin, un truc genre hyper extrême où tu sens qu'il y a une dépendance, une addiction à quelque chose, bah là, la dépendance affective, elle est impalpable, puisque les relations amoureuses, c'est censé être naturel. Ce qui fait que, bah, en fait, peu de gens vont vous dire, mais t'es dépendant affectif. Alors aujourd'hui, on le connaît mieux ce sujet. Enfin, j'ai l'impression qu'on le connaît mieux parce que moi, je travaille dedans, je consomme ce contenu-là sur les réseaux, j'en parle beaucoup autour de moi, donc il y a beaucoup de gens qui sont absolument conscients de ça, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que la dépendance affective, elle est aussi beaucoup liée à ce fantasme romantique. Il y a un fantasme romantique dans toutes nos relations. Je sais pas comment vous expliquer. On fantasme tellement le romantisme, l'amour, le sacrifice, le fait qu'une personne revienne dans nos vies à certains moments donnés, etc. J'espère que je vais pas faire de bruit parce que je touche mon micro. Parce que je n'étais pas une bonne position. J'espère pas faire trop de bruit. Et donc, du coup, ce fantasme-là, romantique, etc., il nous met dans une position où... on fait que confondre tout et on vit à travers ce fantasme, ok, on vit à travers cette idéologie du couple, et ce qui fait qu'on ne va pas forcément voir les mécanismes de dépenses affectives. Qu'est-ce que ça provoque, du coup, la dépense affective? Donc là, on comprend que ça vient d'un trauma. Donc évidemment, les principaux traumas, c'est quand même les blessures d'abandon, le manque d'affection de nos parents, de la figure. Alors ça peut être les parents de sexe opposé ou du même sexe, ça n'a pas vraiment d'importance. La dépendance affective, c'est en réaction à plein de types de petits traumatismes, de traumatismes tout court, de blessures, de manque affectif. Et donc du coup, on va aller chercher, on va essayer d'aller guérir ce manque-là à travers, du coup, nos relations. Alors parfois aussi, on n'a pas d'image de couple. Ça arrive beaucoup autour de moi. Je vois des gens qui n'ont pas l'image d'un couple sain. Donc quand tu n'as pas l'image d'un couple sain, bâti dans le respect, dans l'amour, dans l'harmonie, etc., tu vas beaucoup plus facilement être dépendant affectif parce que tu vas chercher, en fait, une idéologie, quelque chose, mais en ayant peut-être des comportements qui ne sont absolument pas adaptés. Et du coup, ça te fait devenir totalement dépendant de cette recherche perpétuelle d'amour idéalisé, fantasmé, romantique. Je ne sais pas si déjà jusque-là, ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'analyse qu'on a pu en faire et que j'ai pu aussi, moi, en faire à mon niveau et autour de moi. Et qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'est-ce qui va se passer quand on est dépendant affectif? Il va se passer plein de trucs. Par exemple, on va devenir obsédé par la personne. C'est-à-dire que notre monde peut potentiellement être au second plan, si vous voulez, cette personne est notre priorité. Et ça aussi, ça fait partie du fantasme du couple. Oui, tu dois être ma priorité numéro un, etc. Oui, non, ça, c'est pas vrai. La personne dans votre couple n'est pas une priorité numéro un, en tout cas pas forcément à tous les instants de votre vie, et encore moins dans les débuts où cette personne est en haut de la liste de tout. Non, elle peut faire partie de vos priorités que vous avez décidé de faire, mais votre bien-être, votre temps, votre énergie doit être quand même à votre service et à votre priorité numéro un. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous individualise beaucoup, mais qui veut nous faire passer pour des égoïstes si on ne sert pas le père, la mère, le conjoint, les enfants, etc. On ne nous apprend pas à prendre soin de nous, parce que sinon on serait beaucoup plus réveillés, hein. Autant vous le dire. On aurait conscience de beaucoup plus de choses où en fait on se rend compte qu'on s'efface et qu'on ne fait pas des choix par nous-mêmes. Mais voilà, donc du coup ça fait vraiment partie de ça. Donc ce truc de priorité numéro un, ça fait quoi? Ça fait par exemple, vous savez, des gens qui vous annulent tout le temps, qui vous voient plus, qui vous répondent moins au téléphone, etc. Ça, moi j'en connais, des personnes très proches ou moins proches, une fois qu'ils sont en couple, ils sont beaucoup moins présents. Alors on va me dire, oui mais c'est normal. Ouais, non, c'est pas normal pour moi, surtout quand on s'aime très fort, qu'on soit des parents proches, qu'on soit des amis. Pour moi, c'est pas normal. En tout cas, moi, c'est l'attitude, heureusement, étant dépendante affective, que je n'ai pas adoptée. Mais du coup, voilà, c'est vraiment les répercussions de la dépendance affective. Qu'est-ce que ça va faire d'autre? Ça va faire aussi qu'on va surinterpréter tout ce qui se passe. Quand on est dépendant affectif, on va surinterpréter, par exemple, les messages qu'on va recevoir de la personne, qu'on va pas recevoir de la personne. Moi, je sais que j'ai encore des restes par rapport à ça, par exemple. On reviendra après sur moi. Est-ce que je suis vraiment guérie? Est-ce que c'est possible d'être guérie? Tout ça, on verra at the end of the end. Mais là, on va vraiment parler de tout ce process. Et donc, du coup, on va surinterpréter. On va tout le temps être dans une réaction qui est totalement émotionnelle. En fait, si vous voulez, quand on est dépendant affectif, quand on a toutes les dépendances, on va être juste dans un mécanisme émotionnel. On va pas prendre de recul par rapport à la situation, alors que même on pourrait être capable de le faire des fois sur d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'est pas impliqué émotionnellement, on va pouvoir dire à cette personne, là il se fout ta gueule, mais ça va pas du tout, là il faut que tu arrêtes cette relation, par exemple, ou non mais là l'attitude, etc, ça va pas. Mais quand c'est nous qui sommes impliqués, comme on est comme dans une dépendance, imagine t'es dépendant d'une drogue, tu sais que c'est pas bon, mais tu en prends quand même. Là c'est pareil, le dépendant affectif, même si la personne en face de nous est super bien, nous, on peut potentiellement avoir des comportements qui vont saboter cette relation. Alors, souvent, quand on est dépendant affectif, d'ailleurs, on n'attire pas forcément toujours, alors je ne vais pas dire des mauvaises personnes, mais on n'attire pas forcément des personnes qui sont saines quand on est nous-mêmes en dépendance affective. On va souvent attirer des gens qui font miroir avec nous, qui vont avoir des failles, soit des failles qui sont similaires, soit des failles qui vont venir nous grignoter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépendants affectifs qui attirent des pervers narcissiques, des manipulateurs, etc. Après, on peut aussi simplement attirer des personnes, j'en parlais dans une vidéo dernièrement, qui sont, tu vois, genre vides. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis vide, c'est genre des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas un mauvais fond, mais qui ne savent pas qui ils sont et qui, du coup, viennent aspirer notre énergie, notre lumière, parce qu'ils sont vides, parce qu'ils cherchent encore. Ça, autant vous dire que c'est presque plus la majorité des gens que les pervers narcissiques et manipulateurs. Moi, j'ai aussi beaucoup confondu les deux pendant longtemps, jusqu'à comprendre qu'il y a, en fait, plusieurs types de personnes qui viennent nous aspirer. Et il y a des bonnes personnes qui ont vraiment bon fond, mais qui sont... j'ai envie de dire presque du père, pour parler ma langue du 9-3 d'origine. Ils sont du père dans leur vie et en fait, ils voient un peu de lumière et ils se disent « moi, je veux cette lumière-là » parce que pour eux, ils pensent que le bonheur, ça s'achète en fréquentant des gens, en achetant des choses, en ayant du matériel, mais ils ne vont pas vraiment réussir à aller chercher à l'intérieur. Donc ça les regarde, évidemment, c'est leur chemin. Mais voilà, on attire vachement de profils, en tout cas... désolée, j'ai fait du bruit avec mes bijoux, je vais peut-être les enlever parce que c'est un peu relou, excusez-moi. Donc on attire ces personnes-là qui sont on peut plus facilement les attirer, qui sont voilà, en réponse à notre dépendance affective. Mais du coup, imaginons que tu tombes sur une super personne qui est assez équilibrée et saine, elle ne va pas être attirée par toi très longtemps, elle va te fuir parce que tu vas avoir des comportements qui sont ce qu'on appelle les fameux comportements toxiques, qui sont des comportements de dépendance. Donc ça va être par exemple, pourquoi tu me réponds pas, ça va être tu vas stalker la personne, ça va être plein de choses comme ça, la dépendance affective, tu deviens obsédé par la personne, donc tous les comportements que tu adoptes, bah, ils sont pas bons, tu vois. Ils sont pas bons pour toi parce que ça te fait du mal, parce que ça t'y penses tout le temps, ça te prend la tête, et pour la personne aussi. Et tu finis, en fait, la dépendance affective, elle fait comme dans toutes les dépendances, tu finis par craquer. Craquer, c'est quoi? C'est-à-dire que tu sais, par exemple, que ce que la personne fait, c'est pas bien. Je sais pas, elle te trompe, elle te frappe, allez, on va dire dans le cas extrême, elle te frappe, elle t'insulte, elle te manque de respect, elle n'est pas disponible, elle ne te répond pas, mais tu forces. Tu forces, tu y vas quand même parce que tu te dis « mais non, mais je l'aime, c'est plus fort que moi, mon cœur, bah pour lui. » Non. Écoute, on peut aimer quelqu'un, mais quand on se respecte et quand on a un minimum de recul, on ne retourne pas vers une personne qui nous fait souffrir. Ce n'est pas l'amour. Ça, c'est du masochisme. Et c'est ce qu'est la dépendance. La dépendance, c'est « je suis dépendant de quelque chose » qui souvent, en fait, me fait du mal. Je suis dépendant à l'amour. C'est pas vrai, on n'est pas dépendant à l'amour. On est dépendant de la représentation qu'on se fait de l'amour et qui est causée par un manquement d'informations affectives, des traumatismes aussi, bah, un couple, par exemple, de parents qui lui-même est toxique. Donc, du coup, on ne sait même pas c'est quoi un couple sain puisqu'on ne fait que reproduire des schémas. Nous avons des neurones miroirs. Donc, on ne fait que reproduire ce schéma. Et donc, c'est hyper intéressant parce que quand on est dedans, des fois, on sait... Des fois, on sait. Combien de personnes me disent « Ah, moi, je suis dépendant affectif, j'arrive pas à le quitter, c'est trop dur pour moi. » Parce qu'en fait, on va pas, ces personnes-là ne vont pas encore prendre conscience qu'elles peuvent faire un travail. Maintenant, évidemment, comme toute dépendance, il y a le sevrage. Et ça, le sevrage, c'est ça qui est le plus dur. Donc, et si j'étais libre de ma dépendance affective, bah, quel type de vie je vais avoir? Quels sont les types de comportements que je vais avoir? Parce que c'est bien beau que je vous dise oui, quand t'es dépendant affectif, tu fais ci, ça, ça. J'ai forcément oublié un milliard d'informations sur le sujet. Ça va peut-être me revenir au fur et à mesure du podcast ou on en parlera dans un autre podcast. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les moments où, justement, on va vouloir se sevrer de cette dépendance affective? Bah, comme toute dépendance, j'ai envie de vous dire, il va falloir demander de l'aide. Il va falloir demander de l'aide, aller voir un thérapeute, un coach, etc. Alors, cette aide que vous allez demander, elle ne va pas du tout se soustraire de l'action qu'on va porter. Il faut avoir de l'action, il faut poser des actes. Moi, je sais que j'ai grandement soigné, hein, bien sûr, j'en parlerai après parce que je ne pense pas que ce soit 100%, mais j'ai grandement soigné ma dépendance affective en ayant pris des moments de conscience et de recul très terre-à-terre où j'ai quitté une personne. Je suis partie vivre là où j'avais envie de vivre en me disant je vais pas attendre après cette personne toute ma vie qui veut pas bouger son fion. Excusez-moi, je parle trop comme si on était des potes. C'est ce que dit à mes potes, il ne fait pas bouger son fion. On lui dit son cul, bah, je dis son fion, c'est dégueulasse, hein, mais désolé. Il ne veut pas bouger son cul là où moi j'ai envie d'aller. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'y vais. Et j'ai toujours moi j'avais toujours ce moment donné où j'avais une sorte de prise de conscience où tout est limpide et clair et tout, j'ai pas trop mal au cœur. Et après, contre-coup, bam, bam, bam. Et je me souviens qu'à cette époque-là, c'était maintenant il y a 5 ans, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. L'année 2018 a été un tournant incroyable dans ma vie où j'ai quitté cette personne, avec qui je me suis remis plus tard, que j'ai quitté l'année dernière. Mais par contre, ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que je vais vous montrer vraiment la différence en rapide, sans vous rentrer trop dans les détails. J'ai quitté cette personne, je suis partie du coup dans le sud où je suis actuellement. Mais par contre, bah, en fait, j'avais de nouveau la blessure d'abandon là, qui s'est ouverte et c'était horrible. Et en fait, cette personne n'a pas eu des comportements corrects pendant tout ce temps. Puisque bah, elle jouait en fait un peu avec ça, c'est-à-dire que non, je n'ai pas envie d'être avec toi, mais de temps en temps on couche ensemble, etc. Alors moi, vous imaginez pas dans quel état ça me mettait. Cette personne était même venue me voir dans le sud, elle avait passé plusieurs jours, passé des super moments, mais ne voulait pas se remettre avec moi. Ouais, c'était dégueulasse, on va pas se mentir. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais quel comportement. Et moi, j'ai été obsédée par lui. Obsédée par lui, mais quand je dis obsédée, je pense que vous n'imaginez pas à quel point en plus ça m'a fait énormément souffrir. Ça a joué dans le fait aussi que cette relation n'a jamais pu redémarrer parce que cette période m'a clairement traumatisée et a vraiment fait preuve que voilà, cette personne se jouait de moi d'une certaine manière, savait qu'elle avait une emprise sur moi. Inconsciemment, je pense que c'est une bonne personne, mais n'était pas capable, si vous voulez, de se rendre compte de l'amour finalement qu'on pouvait créer, quoi. C'était vraiment, enfin bref, on va pas rentrer sur ce sujet trop longtemps parce qu'on s'en fiche de la personne, ce qui compte c'est nous. Et moi en fait j'acceptais ça, mais ça m'a mis dans un état hors de moi, enfin c'était horrible quoi. Et le pire c'est que par contre quand je parlais avec cette personne, j'étais mal. C'était trop bizarre, j'avais une sorte de soulagement au début quand on se reparlait, et après à terme il y avait une douleur que j'arrivais pas à comprendre. Et bref, on n'était pas du tout fait pour être ensemble, on avait beaucoup de choses à s'apprendre, on était beaucoup en miroir par rapport à des blessures et c'était pour ça qu'on s'était mis ensemble. Mais, en définitive, ben, on n'était pas du tout compatibles. Vous voyez ce que je veux dire? On n'était pas compatibles. Et moi, c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre parce que je me disais, mais il y a tellement de connexions, mais il y a tellement de liens, mais il y a tellement de trucs. Et j'étais encore dans ce fantasme romantique de me dire, oui, mais franchement, t'imagines tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, parce que c'est vrai qu'on a vécu beaucoup de choses, c'est une histoire qui a duré 6 ans. Cette personne aujourd'hui n'a toujours pas tourné la page, hein. Clairement, j'ai des échos qui me reviennent. Donc c'est quelqu'un qui essaye de garder un lien. Et ça, ce lien énergétique peut a un gros impact sur les dépendants affectifs, parce que du coup, ils se diraient, oui, mais quand même, et tout, toute cette symbolique, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je veux sortir de la symbolique, je veux aller vers quelque chose de très sain, de terre à terre et de très sain dans les relations, chose que j'arrive totalement à faire dans mon entourage proche. Et donc, du coup, eh ben, j'ai décidé de partir, j'avais mal au cœur, au bout de presque un an, j'ai coupé les ponts et ça allait beaucoup mieux. J'ai rencontré quelqu'un ensuite et cette personne, ça a duré un an, ça s'est pas très bien fini, mais maintenant on est quand même en bon terme, enfin on est en bon terme, on se parle pas, mais c'est déjà arrivé qu'on se reparle une fois ou deux en l'espace de 2 ans, parce qu'on avait un projet pro, on va dire, en commun, plus ou moins, donc on avait discuté de certaines choses, mais voilà, tout s'est apaisé, moi j'ai plus aucune rancœur par rapport à ça. Lui, je pense qu'il a plus de rancœur par rapport à notre histoire, mais moi non. Et je sais qu'avec cette personne-là, j'étais retournée dans une sorte de dépendance affective, clairement. Pourtant j'avais le sentiment de m'en être beaucoup guérie parce que après bah, j'avais su sélectionner et pas me remettre avec n'importe qui d'ailleurs, tellement que j'étais en état de choc en fait. Depuis en fait cette rupture, j'ai eu beaucoup moins envie de coucher avec plein de mecs machin et tout. J'ai eu très peu depuis 2018, j'ai eu très peu de partenaires par rapport à ma vie d'avant où quand j'étais célibataire c'était n'importe quoi. Et là, beaucoup moins. Je veux dire, même 2022, j'ai eu des partenaires sur les doigts d'une main, alors qu'avant, c'était la folie. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie beaucoup plus remplie. Et justement, on va y venir. Et du coup, quand j'ai rencontré cette personne, bref, ce gars-là essayait de revenir, etc., etc. Mais quand j'ai quitté, enfin, je me suis remis temporairement avec le gars là, dont je vous ai parlé, l'homme masqué avec qui j'avais fait des vidéos et qui je m'étais remis. Enfin bref, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, sinon on s'en fout. Celui dont j'étais folle éperdument amoureuse et totalement dépendante plutôt qu'amoureuse, je pense. Parce qu'on confond souvent les deux. Et je m'étais remis avec lui pendant 3 semaines après m'être séparée de l'autre, puis je me suis remis avec l'autre, c'était un bordel. Et ça, c'est tout à fait la représentation de la dépendance affective, c'est-à-dire que tu ne sais pas te dire à un moment donné, je quitte tout le monde, je m'occupe de moi. Non, il fallait que je choisisse, quoi. Et moi, les triangles amoureux, c'est quelque chose que j'ai quasiment connu dans toutes mes relations. Il y a eu un triangle amoureux, quasiment toutes. Il y en a à un moment donné, il y en a toujours eu un, tu vois. Donc, hyper toxique le truc. Et à la finalité, j'ai quitté cette personne. Je me rendais compte qu'au-delà des dépenses dépendantes affectives, j'étais aussi dépendante matériellement. C'est-à-dire que je comptais beaucoup sur le couple pour être indépendante matériellement. Je comptais beaucoup sur le couple pour me dire, voilà, on va acheter une maison à deux, on va vivre à deux, tout va être plus facile, les factures et tout. Donc j'avais quand même un mode de fonctionnement aussi beaucoup par intérêt. Hein, l'indépendance a été plus qu'affective, elle était même au-delà de ça. Tout devait être... en fait, c'était remplir un vide en fait par des choses qui me sécurisaient au lieu de me sécuriser avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ma lumière et avoir confiance clairement en moi et en l'univers. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et donc bref, je quitte cette personne et je décide de revenir dans le sud alors que je n'ai pas un dolor. Vraiment, j'étais dans la dèche, pas possible. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Faut que j'arrête de dépendre, en fait. Faut que j'arrête d'avoir peur, en fait. J'ai tout d'un coup, après un an de dépression, ma tête, je tilte à un moment donné. J'ai une sorte de déclic qui m'est arrivé rarement dans ma vie, mais j'ai un déclic et que je me dis, mais plus jamais, en fait. Plus jamais je vais vivre ça, parce qu'il m'avait insulté, et je me suis dit, mais je vais plus jamais vivre ça, quoi. Et donc, bref, et donc, du coup, je pars, et un mois après l'avoir quitté, je suis chez ma sœur, en Lorraine, pendant 2 mois, et le lendemain de mes 30 ans, je fais une vidéo sur TikTok, et c'est là où ma vie a vraiment basculé en termes de visibilité. Tout d'un coup, tout a changé, en fait. Tout a changé d'un coup, ça a marché tout de suite, et j'ai saisi quelque chose. Pourtant, moi, je montais mon émission à côté, pour celles qui savent que j'ai réalisé une émission. Elle n'était pas sortie à ce moment-là, elle est sortie l'année d'après. Mais je me suis dit, oh, trop bien, ça va pouvoir me faire une audience pour mon émission. Au final, mon émission n'a pas forcément hyper cartonné, parce que j'en ai pas fait beaucoup la promo, parce que j'étais plus trop alignée avec le message. Mais par contre, ça m'a servi pour tout ce que j'ai fait après, en termes de montage, de réalisation, d'idées, et pour faire une saison 2. Bref, je divague de ouf, je vous raconte grave ma vie. Mais tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si, du fait de m'être, d'avoir encore cheminé sur les peurs, parce que j'avais vraiment traversé la peur d'être seule quand j'étais partie en 2018, et j'avais vraiment réussi, en fait, à un moment donné, kiffer, oui, parce que ça, je ne vous l'avais pas dit, mais à un moment donné, j'ai kiffé, quand j'ai quitté cette personne, j'ai kiffé des week-ends toute seule, j'ai retrouvé des amis, j'ai kiffé prendre des moments seuls, de ne pas être tout le temps toute seule, enfin, d'apprendre à être beaucoup plus souvent toute seule, pardon, et à kiffer être toute seule. Donc, j'avais vraiment fait un gros step de ouf à cette époque-là. Et 2020, quand je quitte cette personne à qui je suis restée pendant un an, la vie me l'a rendu, en fait. Il m'a dit, voilà, tu testes des nouvelles choses et puis tu te poses pas de questions, et c'est ce qui s'est passé, et quitte cette personne et pars pour prendre soin de toi, et ça va aller, enfin, t'inquiète pas, quoi. C'est vraiment comme ça que je l'ai reçu. Pourtant, j'étais vraiment dans un état d'esprit assez sombre quand même à ce moment-là, mais ça a été une opportunité, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast aujourd'hui. C'est parce que j'ai réussi à me dépatouiller de toutes ces peurs, de toutes ces dépendances au max, qui m'ont permis justement d'ouvrir les yeux, en fait, sur tous ces comportements toxiques. Moi, aujourd'hui, j'analyse tous les comportements que j'ai eus avant, et sans du tout m'insulter ou m'envoyer de la haine, pas du tout, mais je me rends compte à quel point j'étais totalement perturbée, sans aucun repère, avec des représentations hyper toxiques qui me faisaient avoir des comportements hyper toxiques, quoi. Et je me dis, mais je comprends pourquoi j'ai pas rencontré de mecs sains, de mecs équilibrés, parce que moi-même, je ne l'étais pas, donc je pouvais pas demander ça à la Terre, quoi. J'étais totalement... j'aurais même pas été capable de prendre soin d'un mec sain et équilibré, vous voyez ? Donc, je me suis occupée de moi, en fait. À partir de ce moment-là, en 2020, je me suis occupée de moi, et je suis totalement devenue indépendante, et j'ai tout accepté. J'ai accepté d'être seule, j'ai accepté d'être pauvre, j'ai accepté d'être précaire, j'ai accepté d'aller mal, j'ai tout accepté, tout. J'ai dit, ok, je vais me débrouiller toute seule. Donc 2 mois après, je retourne vivre dans le sud, parce que j'étais montée un an à Paris. Je vis dans le sud, et là, clairement, je vis une période de ma vie hyper décisive, en fait. parce que je suis au chômage, je touche 1100 euros au chômage, j'ai 1500 euros de charges. Je fais pas un décent, c'est la merde. Et j'ai 15 000 euros de crédit. Voilà. Je m'en sors. Je m'en sors, je commence à toucher de l'argent plusieurs mois après sur les réseaux. Pourtant, j'avais quand même pas mal d'abonnés. Mais non, ça faisait pas gagner des thunes. J'avais des fringues gratos et tout, c'était cool, mais j'avais pas d'oseille. Je travaillais un petit peu pour ma mère à l'époque, parce que je l'ai aidée à... Ma mère qui est numérologue, je l'ai aidée à créer son site et tout. Donc parfois, je bossais pour elle. Donc quand je bossais pour elle, elle me filait des billets et tout. Donc je me démerdais comme ça, mais c'était toujours pas assez. Et je sais pas comment je me démerdais. Et je sais pas comment je faisais pour me démerder, mais chaque mois était une victoire. Et j'avais décidé de prendre ça pour un jeu. Ça a fait partie de la guérison aussi, de la dépense affective. Et évidemment, j'ai fait une thérapie. Évidemment. Pour comprendre tous mes schémas, pour comprendre d'où viennent les choses, pour avoir des outils qui me permettent de prendre du recul et de la distance par rapport à cette dépendance. Et si vous voulez, la dépense affective, c'est un petit peu comme genre les TCA ou quoi, ou troubles du comportement alimentaire, ou peut-être la dépense à la cigarette. Quoique, vous voyez, j'étais dépendante à la cigarette de fou, j'en ai plus du tout envie. Je dis pas, je pense que si je me remettais à fumer, je repartirais dedans. Franchement, je le sais. Mais juste, j'ai comme une sorte de conscience très nette et très ancrée que ça ne va me servir à rien, que ça va me faire du mal. Bah, c'est un peu la même chose que je ressens aujourd'hui sur plein d'autres sujets dans ma vie, et notamment sur cette dépendance affective. Je sais que si j'ai des comportements toxiques, que je commence à envoyer des messages à outrance, que je commence à être obsédée par la personne, que j'accepte des choses que j'aurais pas acceptées juste parce que j'ai peur d'être seule, je sais que quoi qu'il arrive, ça va me faire du mal. Je sais qu'en fait, je me mets dans une situation qui ne me respecte pas. Donc j'ai une sorte de prise de conscience, vous voyez? Et donc du coup, on y vient. Je me suis remis avec cette personne du passé, vous savez, le fameux. Et sauf que j'étais pas du tout dans dépense affective à ce moment-là. Et j'avais même hésité à me remettre avec parce que j'avais même pleuré, je me souviens, la veille de le revoir. Donc ça, c'était en août 2021, donc il y a un an et demi. Et il avait tout fait pour me rassurer, pour me voir, mais en fait, je savais déjà. Il y avait quelque chose au fond de moi qui savait déjà. Et il m'a tellement rassurée qu'après, je me suis dit, mais non, c'est mes peurs, en fait, ça va, c'est l'amour qui triomphe. Non. Je savais déjà en fait que cette personne-là n'allait pas me rendre heureuse et que j'allais pas être épanouie dans cette relation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que j'en ai vécu une histoire d'amour pendant 8 mois. Il est venu me rejoindre les 3 derniers mois et on a même fait des vidéos, on a même créé un compte, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, qui a cartonné. Et voilà, ça s'est pas très bien fini finalement. Parce que cette personne qui n'est pas une mauvaise personne, qui est une belle personne, avec la main sur le cœur, etc., étant une personne assez vide, qui est très sombre, très angoissée, qui ne sait pas vraiment qui elle est, en définitive, qui a be un besoin de reconnaissance disproportionné, et qui du coup bah, a des comportements de mauvais intérêt. Donc bah, aussi la dépense affective, des comportements un peu de dépense matérielle, un rapport un peu paradoxal avec l'argent, à la fois généreux, à la fois proche de ses sous, etc., etc. Bref, donc ça a créé une fin de relation avec des incohérences, tantôt des preuves d'amour, tantôt des choses qui parlent d'argent, qui... Wow. Donc voilà, ça c'est des comportements pas du tout sains, équilibrés. Donc si vous voulez, bah voilà, j'ai terminé cette histoire d'amour avec cette personne, non pas dans les fracas en plus, juste je me suis rendu compte que j'étais plus épanouie avec cette personne et que j'avais fait le tour de la relation, qu'on s'était donné encore une dernière chance, quand notre histoire, elle a été dans la durée. Et je me suis rendu compte que justement, j'étais plus dépendante affective parce qu'avant, mais avant ce qu'on vivait, ça aurait été, comme on a vu une dernière relation qui était plutôt saine, ça aurait été genre tout ce que j'avais toujours voulu avoir. Quelqu'un qui est descendu pour moi alors qu'il voulait pas venir dans le sud. Souvenez-vous, j'étais partie, il est descendu vivre à côté de chez moi. Alors évidemment, comme je suis pas dépendante, j'étais plus dépendante affective, je savais très bien ce que je voulais et je lui ai dit, non, tu prends ma part, on voit comment ça se passe et au pire, on emménagera ensemble. Et avant de le quitter, j'avais même dit, je ne veux plus qu'on vive ensemble, je préfère prendre un appart toute seule, vous voyez? Je sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais je crois que ça fait un bon moment, donc je vais essayer d'accélérer sur ce podcast. Mais voilà, tout ça pour dire en définitive que... ma phrase préférée, hein, en définitive, je vous ai déjà dit dans le podcast précédent, déjà j'articule pas très bien, parfois je parle très vite. Et en plus de ça, j'ai des expressions qui reviennent en boucle. Donc, on arrive au fait que je quitte cette personne et je suis très sûre de moi. J'ai un coup de blues un mois après parce que, bah voilà, parce qu'à ce moment-là, bah, je reviens dans le fantasme romantique et des petits sauts de dépendance affective, mais j'ai tout à fait conscience de ce qui se passe. Je savais que ça allait arriver, je l'avais déjà vécu avec lui, parce que lui, maman, m'avait brisé le cœur sans qu'il le veuille, hein, mais m'avait brisé le cœur, enfin au départ sans qu'il le veuille, après il l'a alimenté. Mais voilà, j'ai eu totalement conscience de ce qui se passait, j'avais même fait une vidéo à ce sujet-là, et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins dépendante affective, parce que malgré tout, bah, je ne l'ai pas quitté dans les fracas. J'ai pleuré pendant 2-3 jours vraiment hardcore. Après, j'ai eu 15 jours où j'étais un peu triste. Et après, c'était fini. Après, c'était fini. Il y a eu peut-être une fois ou deux. Une fois, je crois vraiment, où j'ai repensé à lui à une période bien particulière. Ça m'a rendue triste, mais c'était pareil, c'était pas lui, c'était ce que ça représentait. Et donc moi, je sais vraiment faire la dissociation entre les deux aujourd'hui, alors qu'avant, ma dépendance affective, je la personnifiais. Je pensais que c'était la personne qu'il me fallait, l'homme de ma vie, celui qu'il me faut, je trouverais jamais mieux, etc. Bref, je fantasmais à chaque fois. Alors qu'en fait, c'était juste une réponse à mes traumas qui me faisait croire que j'avais besoin de cette personne pour être heureuse. Encore, on va chercher à l'extérieur de soi, donc ça crée une dépendance à l'autre parce qu'on n'est pas connecté avec soi, en fait. Et si j'étais libre de cette dépendance, il se passe quoi? Bah, il y a des choses qui sont radicales. Et là, c'est pour vous donner espoir, même prenez des notes éventuellement sur ces choses qu'il est nécessaire que vous finissiez par ressentir et par vivre, voire par décisionner, pour vraiment savoir que vous êtes libre de cette putain de dépendance affective. Déjà, se respecter. Se respecter, c'est quoi? C'est avoir tous ces comportements qui soient alignés avec vos valeurs. Si vous, vous considérez que c'est un manque de respect, que on ne vous appelle pas, on ne vous envoie pas de message, on ne vous donne pas de nouvelles, mais respectez-vous, n'allez pas en chercher, ne quémandez pas cette attention. Si vous avez exprimé une fois que cette personne ne répond pas à ça, c'est fini. Je vais même vous dire un truc qui n'est pas un super conseil de coach, parce qu'il n'est pas nuancé, mais c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, c'est d'être radical. Moi, je vous dis, dans mes relations, je suis radicale. Pourquoi? Parce que je vais potentiellement vivre en moyenne jusqu'à 80 ans, normalement. Ceci étant dit, je peux mourir à tout moment, ce qui fait que ça m'enlève encore une possibilité de... Je ne veux pas me casser la tête à avoir des relations avec des gens qui ne me donnent pas d'attention, qui ne me donnent pas d'affection, qui ne me donnent pas d'amour, qui ne me donnent pas de joie. Non. Ou qui m'en donnent et qui me le reprennent. Ça, c'est non. À partir du moment où je sens trop d'émotions négatives dans une relation, je préfère y mettre un terme. Définitivement. Alors, j'ai pas fait ça toujours de la meilleure des façons, je vais être honnête avec vous. Parfois, j'ai été lâche, j'ai arrêté de parler des gens sans donner de nouvelles. Ça, je sais qu'ils disent oui, ça se fait pas, de ghoster. Bien sûr que ça se fait pas. Mais des fois, il y a des gens en face de moi, je sens qu'ils sont pas capables d'entendre ce que je vais dire. J'ai pas envie de manger une décharge. Et donc, ça m'arrive parfois de disparaître, tout simplement. Ça m'arrive. Mais bon. Pour les gens qui comptent vraiment, s'il y a un truc à dire dans tous les cas, si vraiment j'ai plus envie de leur parler, je saurais l'exprimer, évidemment, intelligemment, en me préparant psychologiquement à recevoir la foudre. Parce que j'ai beaucoup été dans le conflit dans ma vie, je déteste ça, et en fait, bah, parfois quand tu recules cette peur du conflit, tu y es confronté. Donc c'est mieux quand même de clôturer les choses. Donc déjà, voilà, se respecter pour moi, c'est aussi être putain de radical. Et donc ça veut dire quoi radical? Bah, c'est dire non, non, ça ne me correspond pas. Ouais, j'aurais adoré vivre cette histoire d'amour avec cette personne. J'aurais adoré qu'on s'aime. J'aurais adoré qu'on continue. J'aurais adoré que tu sois le père de mes enfants. J'aurais adoré ceci, j'aurais adoré cela. Mais aujourd'hui, je me sens pas respectée à ma juste valeur. Et c'est normal de vouloir être respectée, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ce truc de faire des compromis et des concessions en permanence au détriment de ses valeurs et de ses désirs profonds. Alors du coup, ils vont dire, ah ben tu vas finir toute seule. Bah franchement, alors je sais, hein, c'est pas forcément le meilleur message que j'envoie à l'univers, mais je préfère vraiment finir seule, même si ça me rend triste parfois. Hein, je vais pas vous mentir, on va en reparler après, que d'être avec des gens qui me font souffrir et qui me rendent chef, quoi. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, dans ma solitude, j'ai certaines sérénités. C'est une solitude qui est choisie. Elle est un tout petit peu subie sur le côté du couple, parce que c'est vraiment quelque chose que je désire, c'est d'avoir un coéquipier. C'est souvent ce que je dis, c'est pas je vais être en couple, si je vais avoir un coéquipier. En fait, je cherche un associé dans ma vie. Voilà, c'est ça. Je cherche un associé de qualité avec qui je vais pouvoir avancer dans cette vie. C'est ça que je recherche aujourd'hui. C'est pas un mec qui m'aime et je l'aime et on est tout content, on va au restaurant, on est heureux. Non, c'est un associé. On est associés ensemble à nos vies. On s'aime, on se respecte et on avance ensemble dans nos projets de vie. Mais du coup, qu'on va construire à deux et se soutenir dans ceux qu'on a individuellement. C'est vraiment comme ça que je perçois aujourd'hui le couple. Et donc, quand on est radical, quand on dit non, quand on se fait respecter, ça fait quand même un gros tri. Et aussi, on va pas demander, on va pas accepter les miettes, quoi. Pour moi, quand on est libre de sa dépense affective, on n'accepte plus les miettes. Un mec qui dit non, moi je suis pas dispo là et tout, qui vient, qui couche avec toi, qui se casse, alors qu'il t'avait promis autre chose, c'est des choses qui me sont déjà arrivées, c'est non, plus jamais. Quelqu'un où vous ressentez qu'il se fout de votre gueule, écoutez-vous en fait. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous. Si vous sentez que c'est pas normal, écoutez-vous. Encore plus si vous exprimez, vous posez la question à cette personne et qu'elle vous dit que vous êtes taré, fuyez. Fuyez. C'est, comme je vous dis, on s'en fout de savoir si la personne en face, elle est bonne ou mauvaise. On a tendance à vouloir croire toujours que la personne est mauvaise. Non, tu peux avoir une bonne personne en face de toi qui a de mauvais comportements, ok ? N'oubliez jamais ça. Mais bon, comme on a toujours tendance à se dire, non mais c'est une bonne personne, du coup on accepte tout. Non, tu peux très bien refuser une amitié, une relation amoureuse, un contrat de travail ou ce que tu veux avec des gens qui sont des belles personnes. Mais juste, ils n'ont pas des comportements, soit des bons comportements, soit ils n'ont pas des comportements qui te correspondent aussi. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je le dis, l'important c'est vraiment de s'écouter par rapport à ses propres valeurs. Donc on n'accepte pas les miettes, on dit pas oui à un plan cul alors qu'on voulait une histoire d'amour avec ce mec, on ne dit pas oui, on n'attend pas, on n'espère pas. Si ça doit se faire, ça se fera naturellement, évidemment, hein. Ça peut arriver que des histoires d'amour commencent avec juste du sexe ou qu'ils commencent avec de l'amitié ou du travail ou peu importe. Mais si on exprimait clairement ce qu'on voulait, que la personne en face nous dit oui, mais non, on n'accepte pas les miettes. Le fait d'être indépendant, plus indépendant au niveau affectif, ça fait que vous avez plus de recul et de conscience sur ce qui est en train de se passer dans les relations. Je ne vais pas accepter n'importe quoi pour ne pas être seule. Je ne vais pas accepter quelqu'un qui va remplir mon temps. Et puis quand on est indépendant au niveau affectif, quand on est libre affectivement, si je puis dire, je pense que c'est plus le terme, quand on est libre et quand on a un rapport à la relation beaucoup plus saine, on est très concentré sur ses projets. On ne met plus ses projets de côté. Moi, combien de fois j'étais prête à l'époque, et je me souviens très bien, c'était vraiment une grosse problématique que j'avais, je me mettais en couple et tous mes projets professionnels, ils disparaissaient. Je me souviens qu'à l'époque, je chantais, j'ai rencontré un mec avec qui on faisait de la musique, et à partir du moment où on s'est mis en couple, j'ai quasiment plus fait grand-chose. Des petits trucs par-ci, par-là. Mais j'étais plus investie comme avant. En fait, mon ambition était un petit peu aspirée parce que je mettais toute mon énergie dans la personne. Et que je te fais à manger, je te fais le ménage, et je fais tout ce que tu veux, et je serai la femme parfaite, et je fais l'amour comme t'as envie, et je m'habille comme t'as envie. Tu veux que je maigris, je vais maigrir, etc., etc. Tu veux que je maigrisse, pardon, et je vais maigrir. Enfin, c'était ça. C'était obsédée par le fait que je veux marquer tous les points pour que tu m'aimes. Mais déjà, c'est la pire stratégie à avoir pour garder quelqu'un dans sa vie. Parce que c'est comme refait la même chose en arrière. Si quelqu'un, et je l'ai vécu, hein, j'ai été quasiment qu'avec des hommes qui étaient aussi dépendants affectifs. Quand t'es avec quelqu'un qui ne voit plus ses amis parce qu'il passe tout le temps du temps avec toi. Ne tourne que autour de toi, en fonction de tes émotions, de tes états d'âme, etc., etc. Tu peux pas être heureux. Tu ne peux pas être heureux, ce n'est pas possible. Combien de fois ça même, ça t'agace? Moi, je me souviens que je n'ai jamais demandé à mes conjoints de ne pas voir leurs amis. Au contraire, je dis, mais va voir tes amis, va voir tes amis, va voir tes amis. Vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est hyper, hyper important. Et je suis tombée sur beaucoup de personnes qui étaient en dépendance, comme moi, c'était une réponse aussi, hein, et qui arrêtaient de voir leurs amis. Et ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée, parce que justement, aujourd'hui, moi, je veux rencontrer des gens, des hommes qui ont une vie sociale développée, qui vont forcément me donner du temps à terme, on trouvera du temps pour se voir, mais qui ont une vie sociale qui est développée. C'est hyper important que cette personne, je ne sois pas son monde. Je ne veux pas être son monde. Je veux faire partie de son monde dans les premiers rôles, mais c'est hyper important d'avoir une vie sociale développée, affirmée. Et avoir une vie, avoir des projets. Il est hyper important d'avoir des projets. C'est pour ça que je vous parle souvent, j'avais parlé d'indépendance financière dans un de mes podcasts, le troisième si je dis pas de bêtises, là on est au cinquième, et c'est hyper important d'avoir des projets dans la vie. Même ton projet n'est pas forcément un projet professionnel, tu peux avoir envie d'acheter des appartements, tu peux avoir envie de faire un tour du monde, tu peux avoir envie de te dire bah voilà moi je vais apprendre à coudre ou j'ai envie de faire du cheval ou j'en sais rien. Avoir un projet, des projets c'est hyper important, le projet c'est ce qui juste ça te fait vivre en fait. Pour moi si dans la vie t'as zéro projet, comme je dis, un projet c'est pas un projet professionnel, c'est pas un projet d'entrepreneuriat, girl boss, machin, businessman, non. Un projet c'est... Je fais des choses qui vont me faire du bien. Par exemple, j'ai des gens autour de moi qui ont décidé d'apprendre à faire du piano, des personnes qui ont décidé de, ben justement de développer des fois leurs compétences dans certaines choses, juste pour le plaisir personnel de prendre soin de soi, de se connecter à soi, d'être en conscience, de créer, d'être dans sa créativité. Ça te donne de la puissance, ça te donne de l'estime de soi, ça te donne la confiance en soi. Parce que qu'est-ce qui se passe? T'es là, t'es en dépendance affective, t'es à fond dans ton couple et tout. Ça se termine, il n'y a plus tes potes, t'as pas de projet, t'es dans la merde, tu te dis je dois reconstruire tout de zéro. Ben justement non, on veut pas ça. On veut que tu puisses avoir un soupape, que tu puisses être indépendante financièrement, que tu puisses avoir justement des passions dans la vie auxquelles tu vas. Ben ouais, tu vas te raccrocher à ces passions parce que c'est elles qui vont te rappeler que tu vis quand même, tu n'es pas la femme d'eux, tu n'es pas la conjointe d'eux, tu es toi et tu as toujours en fait toutes tes palettes, toutes tes passions, toutes ces choses-là et ça compte. C'est pour ça que quand on est libre de sa dépendance affective, on se reconnecte toujours à l'essentiel. Moi, dans les moments donnés où je vais avoir, et je vais terminer là-dessus, je vais avoir un peu cette dépendance affective qui va se réveiller dans certaines situations, je prends des grandes inspirations et je me rappelle que la vie est mouvement, que tout ne tourne pas autour de cette personne et qu'il y a le soleil, la mer qui est là en bas de chez moi, qui a mon chien qui est adorable, qui a mon appartement que j'aime, qui a mon métier, qui a des gens qui comptent sur moi, que j'ai des projets professionnels, que mon corps est important, que mon cœur est important, que j'ai plein de projets, plein de choses à mettre en place, que j'aime le sport, que j'ai la danse. Et c'est pour ça, moi, que je fais beaucoup de choses de plus en plus et que j'ai retrouvé progressivement aussi mon énergie. Ces derniers mois, j'ai vraiment une explosivité en termes d'énergie. Alors pendant des années, c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques, ça m'a fait énormément de bien. Parce que là, maintenant, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment créé un univers dans ma propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe quelque chose, il y a un univers dans ma vie, il y a quelque chose qui s'est créé. Et que du coup, qu'il y ait une personne qui rentre ou pas, quand elle va sortir, si elle reste un temps et que je l'ai beaucoup aimée, ça va être un peu douloureux. Mais je ne vais plus être dans cette situation où je vais être plus bactère. Enfin, je me le souhaite, où je vais être plus bactère. Quand j'ai quitté cette personne, alors que vous savez bien que c'était la personne avec qui je voulais me remettre, qu'on s'est dit c'est bon, ça fonctionne, etc. Finalement, la rupture n'a pas été si horrible parce que j'avais créé mon monde et... Il était là en option, il n'était pas là en nécessité de ce monde. Aujourd'hui, je veux un associé, mais ça veut dire un associé s'associe à quelque chose qui existe déjà. Et j'existe déjà, j'ai déjà une vie, j'ai déjà des choses et je ne veux surtout pas être dépendante de cette personne. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais en dire là-dessus. J'espère que ça a pu faire écho avec vous. Je pense que ça fait quasiment une heure que je parle. Je suis capable de parler une heure toute seule. Tout va bien. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir, pour ceux qui ont la référence. Florence Foresti, chez Ruquier, qui faisait Isabella Gianni. Bref, c'est ma petite ref. En tout cas, j'espère que ce podcast a pu vous éclairer. Encore une fois, je vous le rappelle, faites-vous accompagner et surtout mettez de l'action. Prenez des décisions. Sachez que vous allez... force, comme dans toutes les dépendances, passer par des phases de sevrage. Et donc, ça va être difficile, mais vous en êtes capable. Il y aura des allers-retours, mais vous en êtes capable. Si vous avez conscience que ça vous bouffe la vie, c'est qu'il y a quelque chose à aller faire là-dedans et d'aller guérir, soigner vos traumatismes. Et j'ai pas répondu. Non, je ne suis pas totalement guérie de la dépendance affective. J'en ai par contre beaucoup conscience. C'est ce qui me permet qu'elle ne soit plus le centre de ma vie et qu'aujourd'hui, je peux avoir des mécanismes style... t'attends un message de la personne pendant 3 jours et t'y penses en non-stop, ça m'arrive, mais par contre, je ne vais plus briser ce manque de respect, je ne vais plus aller à l'encontre de mon respect envers moi-même parce que je m'aime, parce que je me priorise et parce que je sais qu'en brisant ça, je vais perdre l'estime de moi-même, je vais me faire du mal et je vais avoir des comportements qui seront à l'encontre en fait de mes valeurs et de qui je suis, et que cette personne n'est pas tout mon monde. Mon monde existe déjà et je vais continuer à le faire tourner et à le faire briller. Et la personne qui voudra s'associer à moi pour briller avec moi ne me mettra jamais dans cette situation d'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'intéressera à moi, elle me donnera de l'amour, de la lumière, et on se le rendra. C'est tout à fait normal. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Des bisous, des câlins, des hugs. Prenez soin de vous et on se dit rendez-vous au prochain podcast. Et si j'étais libre.